Eh bien, voici une nouvelle émission. On va parler de tourisme, de patrimoine, d'histoire. Annick, bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
Le titre de votre émission, vous pouvez nous le redonner?
Culturellement vôtre.
Culturellement vôtre, bien évidemment. Votre invité d'aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir parmi nous Jean-Luc Renaud, qui est l'auteur d'un ouvrage sur les mégalithes d'Eure-et-Loir, dolmen, menhir et polissoir. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Vous allez nous parler, en fait, de ces grosses pierres qu'on voit s'élever un petit peu partout sur notre territoire. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est essayer de faire la différence entre les mégalithes, les menhirs, les dolmens.
On range sous le terme de mégalithes des pierres qui ont été des grosses pierres, qui ont été manipulées, érigées par les hommes à l'époque de la préhistoire, c'est-à-dire au néolithique, dans une période de moins 1400, moins 2000.
Donc Astérix et Obélix et les menhirs, c'est pas possible.
Voilà.
Tout de suite, on élimine ces deux
personnages-là, très sympathiques au demeurant, qui sont un petit peu quand même animé ma curiosité par rapport à ces monuments. Donc parmi ces mégalithes, on distingue essentiellement deux catégories de monuments. Les dolmens. C'est un terme générique, on préfère parler de sépulture mégalithique. C'est-à-dire que ces monuments sont des monuments funéraires qui ont servi de sépulture, pour la plupart, à des individus. Des sépultures collectives, c'est-à-dire qu'on y retrouve les restes, les vestiges de plusieurs individus. Alors, ça peut aller de l'ordre d'une dizaine pour les mégalithes les plus anciens, pour les dolmens les plus anciens, jusqu'à des sépultures collectives dans le bassin parisien, où on retrouve à peu près une population de 300 individus, par exemple. Donc, voilà. Alors, le dolmen, c'est un caveau qui a été érigé à partir de pierres mises verticalement, que l'on appelle des orthostates. On n'appelle pas ça des supports. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas forcément cette pierre horizontale qu'on appelle la table ou l'étable. Des dolmens, il y en a une très grande variété suivant les régions, suivant les époques. Et cette variété aussi concerne leur taille, leur dimension. Elles peuvent être énormes dans certains cas et d'autres beaucoup plus modestes comme on peut en rencontrer en Eure-et-Loir.
Eure-et-Loir, on en a beaucoup.
L'Eure-et-Loir est un département où il y avait beaucoup de dolmens. C'est le département le plus riche de la région centre.
Dans le sud des Yvelines.
Aussi.
Dans le sud des Yvelines, on en a peu parce que les Yvelines couvrent une région forestière. Alors que les dolmens, en fait, sont les vestiges de sépultures correspondant à des populations qui étaient les premières communautés paysannes de l'Eure-et-Loir. On les trouve en relation avec les cultures, mais aussi quelque chose qui conditionne le mégalithisme, c'est la présence de grosses pierres.
On va retrouver des mégalithes dans plusieurs régions, mais on reste centralisé sur l'Europe. Il n'y en a pas aux Amériques, il n'y en a pas en Asie.
Faux. C'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. J'ai tout à l'heure indiqué que les mégalithes que l'on rencontrait en France, en Europe de l'Ouest, sont des mégalithes qui ont été érigés au néolithique, c'est-à-dire dans une période où l'agriculture est née, par un processus, disons, de néolithisation qui s'est faite en provenance du croissant fertile de cette région du Proche-Orient, et puis qui a gagné un petit peu toute l'Europe occidentale pour venir buter sur les pays, disons, armoricains, pour la France, mais aussi l'Espagne, Portugal, etc. Il existe d'autres mégalithismes. Dans d'autres pays, ces mégalithismes sont étudiés. Certains sont encore contemporains. On a des mégalithismes avec des utilisations, par exemple, à Madagascar. On a dans les îles, dans l'Indonésie, dans les îles de Sumba, etc., du mégalithisme. Et quelquefois, il existe dans des îles des mégalithismes qui ont deux motivations différentes.
Alors justement, c'est très intéressant, deux motivations différentes. Je vous propose d'en parler dans quelques minutes. Avec moi, Jean-Luc Renaud, l'un des spécialistes des mégalithes, notamment en Eure-et-Loir et un petit peu partout. Et vous nous parliez qu'il y avait plusieurs endroits dans le monde, on a parlé de Madagascar et des îles, où il y avait des mégalithes, avec deux fonctions différentes. C'est ça, c'est bien compris?
Fonction, motivation, c'est-à-dire fonctionnement, raison pour lesquelles ces mégalithes étaient érigés, mais aussi époque. Il y a un mégalithisme très important, par exemple, en Éthiopie. qui est un mégalithisme de pierre levée, de menhir, qui a été étudié par Roger Joussaume, qui est vraiment un des spécialistes du mégalithisme éthiopien. Il y a des mégalithes aussi en Sénégambie, Sénégal-Gambie. Ça, c'est l'Afrique. Vous avez des mégalithes, des dolmens très particuliers au Japon.
Justement, vous parlez de dolmens. Je me permets de vous interrompre. Le dolmen, pour moi, bon, ce sont des pierres levées avec un coffre.
Un coffre, disons une sépulture.
Oui, voilà, ça fait comme un tunnel et souvent on arrive dans un espace rond, un caveau.
C'est un caveau, mais ce caveau, quelquefois, s'est réduit à la plus simple expression, c'est-à-dire qu'il n'y a que la chambre funéraire.
Oui.
Ce qu'on appelle le couloir d'accès, quelquefois, comme on peut les découvrir dans de gros dolmens en Bretagne, par exemple, Gavrinis, où il y a, même en Irlande, vous avez un couloir d'accès qui peut faire plusieurs mètres.
Tout à fait.
Or, on s'aperçoit que dans l'évolution de l'architecture de ces dolmens, de ces sépultures mégalithiques, petit à petit, le couloir, cet accès a été raccourci, mais on a favorisé la chambre funéraire. C'est-à-dire qu'on a inhumé beaucoup plus de personnes dans ces chambres. Il faut bien comprendre que ces premiers mégalithes, tels qu'on parle, Gavrinis, sont des mégalithes qui datent du 5e millénaire, certainement, fin du 5e millénaire, c'est-à-dire -4000, -4100, etc. Alors qu'on va avoir des mégalithes, justement, qui vont être beaucoup plus longs, qui vont être ce qu'on appelle des allées couvertes, avec une grande longueur d'orthostate mis parallèlement et recouvert.
Oui.
Sont des allées couvertes, disons, du néolithique final et qui vont dater, on va dire, grosso modo, pour voir cette différence d'âge, on va dire, moins 2800 ans, moins 2500 ans, quoi.
Alors moi, j'ai eu la chance d'aller à Newgrange, en Irlande, et il y avait des pierres qui étaient décorées. On a des motifs décoratifs. Alors, est-ce que en Eure-et-Loir, ou dans la forêt d'Yvelines, ou ailleurs en France, Locmariaquer, Carnac, en Bretagne pour ne citer que, est-ce qu'on a trouvé des pierres avec des motifs décoratifs dessus, ou c'est vraiment ciblé sur le milieu anglo-saxon aujourd'hui?
Oui, il existe dans notre région du centre du bassin parisien des mégalithes qui portent des gravures. Et un des plus anciens qui ait été découvert, c'est le dolmen du Berceau, à Maintenon, sur le site mégalithique de Changé, où deux orthostates portent des parures très importantes de signes des vagues, des haches emmanchées. Et ce sont des symboles, disons des représentations, qu'on retrouve dans les mégalithes armoricains. Par exemple, il y a une forte comparaison avec un mégalithe, un dolmen sous tumulus important, qui est celui de Dissignac, à côté de Saint-Nazaire. Et puis, j'ai eu la chance, et vraiment cette chance, ça me donne toujours des frissons, de découvrir des gravures sur un menhir, à côté de Galardon, le menhir d'Imray.
Oui.
Et là, il y a deux haches gravées, un serpentiforme. Mmh. On est encore dans le même registre de gravures qui montre une influence avec les mégalithes armoricains, une communication de culture avec les mégalithes armoricains.
Annie, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, vous nous parlez de menhir, monsieur Renaud, quelle est la différence entre les dolmens et les menhirs?
Oui.
Je précède Annie, mais elle allait poser la question.
Je reviens un peu sur cette catégorisation de mégalithes. Effectivement, il y a une deuxième famille de mégalithes qui sont les menhirs. Les menhirs sont des pierres dressées.
Le plus bel exemple, excusez-moi de vous couper, le plus bel exemple, enfin pour moi, c'est Carnac.
Carnac, je dirais c'est autre chose. Carnac, ce sont des milliers.
Oui, de
menhirs. Ce sont des milliers de pierres dressées qui ont été érigées suivant des alignements.
Mm-hmm.
Quelle est la signification de cet ensemble par rapport à une pierre isolée?
Vous allez nous le dire.
Non.
Ah.
Parce qu'on ne sait pas.
J'y ai cru.
On ne sait pas. Quelque chose qui est fantastique, c'est qu'à Locmariaquer, puisqu'on en a parlé, en Bretagne, en bordure du golfe du Morbihan, il a existé le plus grand menhir érigé en France, qui faisait 21 mètres de haut.
Oui, il est tombé maintenant.
Je crois que c'est 280 tonnes, qui a nécessité un transport. Il a été érigé et ce menhir est tombé et s'est fracturé en plusieurs morceaux. Mais ce menhir n'était pas seul. En fait, il était à l'extrémité d'une série, d'une implantation de menhirs qui ont disparu. À côté de ce menhir qui est tombé, il y a un dolmen très spectaculaire, sous tumulus, qu'on appelle la table des marchands.
Alors, excusez-moi, je vous coupe pour nos auditeurs. Sous tumulus, ça veut dire sous terre, moitié enterré.
Non.
Alors,
le tumulus ou un cairn, c'est un recouvrement du dolmen par des matériaux. On appelle un cairn quand ce recouvrement est fait par des pierres sèches. Alors il y a le cairn de Lotmariaker. Il y a un très beau cairn malheureusement qui a été endommagé par un maçon qui a prélevé des matériaux. C'est le cairn de Bardonnaise qui se trouve au nord du Finistère, où à l'intérieur de ce cairn vous aviez 13 dolmens, oui, à couloir. Malheureusement certains ont été ventrés. Donc ça, un tumulus, c'est un ajout, un recouvrement de l'ossature mégalithique.
On va faire une petite pause et on va revenir tout à l'heure, parce que j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur ce que l'on sait des utilités potentielles des différentes mégalithes. Alors nous voilà de retour dans Culturellement Vôtre avec Jean-Luc Renaud qui nous parle des mégalithes d'Eure-et-Loire. Justement, tout à l'heure, on a fait un point sur mégalithes, dolmens, menhirs, etc. Nous savons qu'en Eure-et-Loire, il y en a beaucoup. On a parlé notamment de Changé. Alors je reviens très rapidement sur le site de Changé où il y a un musée des mégalithes qui, si je ne m'abuse, se trouve pas très loin du camp romain, de la ferme de la Folie, du camp de César. Donc c'est un peu en hauteur. Resituez-nous un petit peu changer les mégalithes et puis après on fera bien un point sur ce que l'on sait de différentes utilités des lieux.
Le site mégalithique de Changé est un des sites majeurs de Eure-et-Loire. Il y avait environ 5 dolmens, dont un dolmen, le berceau, qui possède des gravures. Gravures qui n'ont été découvertes que vers 1910. Un autre dolmen est à la sortie du hameau, qui est plus spectaculaire au sens, il n'y a qu'une table qui est supportée par deux orthostates, qui est fortement inclinée, peut-être résultat d'une tentative de destruction. C'est le dolmen de la Grenouille. Il a été découvert en fouillant dans la zone centrale à côté du dolmen du berceau, un autre dolmen qui ne comportait pas de couverture. En 1924, il a été découvert. C'est le dolmen Petit, du nom de son découvreur. Dans ce dolmen, il a été exhumé environ 12 inhumations, ce qui est un effectif assez commun pour un dolmen de cette époque-là. Il y a aussi, à l'extrémité, plus proche de la Folie, à peu près à 150 mètres de là, un grand menhir.
Pour ceux qui connaissent pas, la Folie, c'est une ferme qui est à côté de... Et Monsieur Petit, c'est, si mes souvenirs sont bons, l'agriculteur qui a trouvé ça dans son champ.
C'est ça, non, c'est pas ça pas son non, champ.
Ou le champ d'à côté, le champ d'un voisin.
Il s'est intéressé, disons, au mégalithes de Changer, et puis d'accord, il a décidé de faire des fouilles. D'accord. Donc, en 1924, ils ont creusé à côté. Alors, ce dolmen dit petit était masqué parce qu'en fait, le chemin qui menait directement de Changer au nord à la ferme de la Folie passait dessus. Donc, il était protégé. Il ne dépassait que quelques pointements d'orthostates.
Donc, on répète, pour nos auditeurs, les orthostates, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les pierres qui sont levées, sur lesquelles on va retrouver une autre pierre plate par-dessus.
On devrait retrouver, dans l'occurrence, dans le dolmen petit, on n'a qu'une couronne d'orthostates.
D'accord. Donc, on n'a pas les pierres plates qui sont au-dessus, non. Donc ce qu'on appelle la table, c'est ça ?
La table, oui. Et en fait, table, il y a eu au moins un élément a été découvert par Léon Petit. C'était un élément de couverture de ce dolmen avait été enlevé certainement à l'époque néolithique et érigé verticalement comme un menhir.
D'accord. Et on sait pourquoi ça aurait pu être fait comme ça? On a une supposition, les historiens n'ont pas une idée, les historiens ont toujours des idées.
C'est complexe. Alors je vais finir sur la description du site de Changé. À l'extrémité donc du site, au bout, il existe un menhir qu'on appelle le but de Gargantua, qui lui-même est accompagné de deux autres pierres, une association assez curieuse d'un menhir très haut et de deux autres dont on ne connaît pas, là encore, la signification. Quelle est la signification d'un menhir, de cette pierre dressée? Beaucoup d'hypothèses sont données. Une marque totémique, on veut marquer un événement, on veut marquer son clan, son territoire. Et c'est beaucoup de choses et on est toujours décontenancé par rapport à ces monuments, ces menhirs, parce que leur fouille ne donne quasiment pas grand-chose.
Et j'imagine que c'est ce qui fait aussi le charme de cette recherche, c'est qu'il y a cette part de mystère qui reste un petit peu et qu'on ne découvrira jamais. Donc on peut spéculer et régulièrement à partir des découvertes archéologiques ou géologiques.
Nombre de menhirs que j'ai rencontrés, je suis là, les visiteurs font un tour autour de la pierre et restent un petit peu plein d'interrogations. combien de fois je suis resté comme ça, qu'un quart d'heure assis, à essayer qu'une réponse me vienne. Mais c'est vrai que c'est un peu fascinant. C'est un petit peu, quand j'étais enfant, disons vers à peu près 13 ans, j'en avais vu un dans le secteur d'Avrier, c'est ce qui m'avait un peu impressionné.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Annick, c'est intéressant ce que dit Monsieur Renaud. C'est qu'en fait, ces alignements, ces monuments suscitent la réflexion et la méditation.
Ouais.
Donc c'est peut-être une des raisons d'être de ces endroits, ou est-ce que c'est un trait de notre société moderne?
Ça veut dire qu'au néolithique, donc, on avait déjà la conscience de, réflexions, on peut tout imaginer.
Dès le néolithique, il y avait une réflexion, même avant, des réflexions sur la mort, peut-être un culte des ancêtres, peut-être une certaine religiosité dans ces monuments. Le site de mégalithique de Changé est important parce que il a été fouillé pendant 20 ans. J'ai participé à ces fouilles, je ne suis pas fouilleur, j'ai horreur de fouiller, mais j'en ai fait les dessins, les plans de fouilles, etc. Et les premières années, il n'y avait rien de parlant. Disons, le site avait été fouillé au niveau des deux dolmens centraux, et de comprendre un peu ce fameux tumulus qui noyait les deux dolmens, le berceau et le dolmen petit.
On a retrouvé des objets à l'intérieur.
Des ossements.
Des outils.
Des outils, oui, des bols, des outils, des choses.
On n'a pas d'objets à Saint-Pierre, disons, je dis Changé, on n'a pas d'objets. On a par exemple un ornement, un collier de dents de canidé, 23 dents de canidé, mais c'est tout.
Super bijou, j'adore.
Il n'y a pas de poterie, il y a des petits silex taillés. Et pour finir de Changer, autant le dolmen petit était une sépulture, le berceau ne comportait aucun vestige osseux. Ce qui pose le problème, à quoi servait-il?
Oui. Ou alors ils ont peut-être été enlevés avec les... Non.
Le Dominique Jabgu, qui était le responsable des fouilles, a vraiment regardé dans les coins et les recoins. C'est ce dolmen qui possède les gravures. Il avait peut-être un autre sens, une transition par rapport à l'autre monument. Supposition.
On va faire une petite pause et puis on revient tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on parle des polissoirs et puis de la suite recherche sur le site de Changé. Je vous remercie. Nous voilà de retour sur RVE et Culturellement Vôtre avec Jean-Luc Renaud et son livre sur les mégalithes. Nous étions en train de parler du site de Changé, qui est, vous nous l'avez dit, le plus grand site d'Eure-et-Loire où on va trouver des mégalithes. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur ce site, quelles sont les suites à donner sur ce musée? Je crois qu'on peut, il est ouvert au public, mais on peut voir aussi quand il est fermé des pierres d'extérieur. Est-ce qu'il y a des recherches prévues? Comment on avance ce site et ces mégalithes à Changé?
Donc, le site de Changé a été fouillé pendant 20 ans. Ces fouilles ont vraiment abouti sur des informations très importantes, c'est-à-dire qu'on dépasse un peu la réponse sur la fonction du monument, c'est-à-dire c'était des sépultures. On aborde maintenant un petit peu le fonctionnement de ces monuments et leur vie pendant leur utilisation. Et là, c'est quelque chose de très complexe. Ce sont des nouvelles recherches, pas tellement, puisqu'elles ont déjà une vingtaine d'années maintenant. Mais ce sont des développements qui ont été apportés par les fouilles de Changé, entre autres. Et Changé, au départ, quelques mégalithes ont été fouillés, c'est des choses qui ont été aperçues, et là, Changé vient confirmer certaines latitudes.
Juste rapidement, en parenthèse, et je referme ma parenthèse très vite, ces lieux ont été fréquentés pendant combien de temps? On a une petite idée déjà? Vous nous parliez de leur origine, de l'époque à laquelle ils sont datés?
Chronologiquement parlant, non. On peut penser que ces sites, au moins certains dolmens, ont été peut-être utilisés pendant 2-3 siècles. Le problème, il y a une utilisation funéraire. On dépose des corps. Mais après, que se passe-t-il? Y a-t-il un culte des morts? Ces mégalithes sont-ils entretenus? Reste-t-il l'objet d'un intérêt pour la communauté? Et quelque chose, je voudrais terminer, c'est qu'on s'est aperçu que, à Changé, les mégalithes, les dolmens, avaient été détériorés volontairement et de façon mesurée, réfléchie, par les néolithiques eux-mêmes.
Ça peut pas être... un camp adverse qui aurait détruit quelque chose. Est-ce que ça peut être une évolution de la mentalité? On n'y pense plus.
Tout à fait.
On revoit la vie différemment.
Il y a une évolution des mentalités. Peut-être que les dolmens ont une utilisation funéraire et que ces populations qui en étaient responsables ont-elles voulu que ces mégalithes ne soient pas réutilisés? Et on parle, il y a un terme qui est très important dans qui a été un petit peu mise au point, c'est le terme de condamnation. On condamne le monument. C'est-à-dire, on arrête de l'utiliser pour une fonction peut-être sépulcrale. Mais reste-t-il
une fonction ? C'est une démarche qui s'est reproduite ailleurs et plus tard pour tout ce qui est sépulture et tout ce qui est monument funéraire. Donc ça fait partie de l'ADN humain, ça, de sa façon de réfléchir.
Nos cimetières, nombre de nos cimetières ont été déplacés.
Voilà, absolument.
On parlait tout à l'heure des objets qu'on aurait pu retrouver à changer. Vous avez dit non, pas vraiment, mais il y a un site où on a retrouvé, un site en Eure-et-Loir, on a retrouvé plein d'objets.
Il y a un autre site très important en Eure-et-Loir où il y a plusieurs mégalithes. C'est le site de Saint-Maur-sur-le-Loir qui est au niveau un petit peu au sud de Est de Bonneval. Il y a 5 dolmens, il y en avait 6. Il y a 2 dolmens qui ont été fouillés, dans lesquels ont été découvertes des poteries. Et dans une de ces poteries, la pâte de l'argile qui avait permis la confection de cette poterie, porte l'empreinte de graines de semences. Alors ça, c'est intéressant parce que on savait que les néolithiques utilisaient ces plantes.
Oui, on est dans l'agriculture,
on est dans la période agricole, voilà.
D'accord. Dans votre livre, il y a toute une partie qui parle des polissoirs. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'un polissoir ?
Alors, le polissoir, c'est un petit peu un mégalithe marginal. On n'est pas dans le mégalithisme, c'est-à-dire on n'est pas dans le mégalithisme funéraire, on n'est pas dans le mégalithisme de monumental, de souvenir. On est dans un mégalithe où étaient confectionnées les haches polies.
D'accord.
C'est-à-dire on polissait les haches, ce sont des ateliers.
C'est une industrie, voilà.
C'est une industrie, c'est un artisanat. Alors, c'est très intéressant, on ne peut pas ne pas en parler en Eure-et-Loir parce que on a un nombre important de polissoirs, très important notamment dans la confluence des deux Conies au sud-est de Bonneval, du côté de Nothonville, Varize, Civry, où on a à peu près, je dirais, une trentaine de polissoirs, et le lieu vraiment, etc. Cela pose d'autres questions, parce qu'on y polissait des haches, mais la matière première n'est pas locale.
Alors ça, c'est très intéressant. Je vous propose, Jean-Luc Renaud, de nous en parler une prochaine fois. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu présent pour nous parler des mégalithes en Eure-et-Loir.
Vous nous rappelez le titre du livre et comment on peut se procurer. Bien sûr.
Alors c'est je vous laisse le présenter, c'est votre ouvrage.
Bien, l'ouvrage, c'est Mégalithes d'Eure-et-Loir, entre parenthèses, dolmen, menhir et... J'ai rajouté « et polissoir » pour marquer la différence qu'il y a avec le mégalithisme classique. Mm-hmm. Hein. Ce sont des mégalithes qui sont contemporains des dolmens et des menhirs.
Mais avec une autre fonctionnalité.
Avec une autre fonctionnalité.
Alors
et
votre
on ne peut pas les négliger vu leur nombre en Eure-et-Loir.
Donc votre livre est publié par le comité archéologique d'Eure-et-Loir. On peut le trouver en librairie ?
Alors, on peut le trouver en librairie à Chartres, à l'Esperluette.
Mm-hmm. L'Esperluette, c'est une très grosse librairie à Chartres, hein, vraiment magnifique.
Au centre Leclerc, à
Rambouillet. Non.
De Barjouville
à Chartres.
Si vous me le permettez, on peut terminer sur un petit sourire.
Bien sûr.
Au 19e siècle, les alignements de Carnac, les menhirs, il y avait un écrivain célèbre français, en l'occurrence pour le nommer, qui s'appelait Théophile Gautier, mm-hmm. qui était persuadé que c'était des Égyptiens antiques qui étaient venus arriver en Bretagne et dans notre pays, sur notre pays, qui avaient fondé tous ces alignements.
C'est magnifique. Juste une anecdote. Autre débat. Merci beaucoup. À bientôt, Jean-Luc. Au revoir.